Chapitre 19. Tandis qu'elle peaufinait ses plans, réfugiée dans le palais, Nietzsche s'était rétabli des effets secondaires de son désastreux voyage. Désormais, son don était en acier trempé comme il se devait. Pour passer le temps, elle explorait les innombrables couloirs et croisait des gens taciturnes qui semblaient plongés dans la même transe que leur cité. Acha, Cora et les autres spectres éludaient quasiment toutes ces questions au sujet de leur passé et des Is. Alors que la vieille femme disposait des lilas dans un vase pour ajouter un peu de blancheur au décor grisâtre, la magicienne remonta à l'assaut.
« C'est ce que vous faites jour après jour? Vous cacher et attendre? Rien d'autre? Que pourrions-nous faire? Si nous partons, les Is se répandront partout dans le monde. Il nous faut les contenir et ils restent ici à cause de nous. C'est notre mission. »
Troublé, Nietzsche frôla la tige lisse et douce des lilas.
Après des siècles, est-ce suffisant? Est-ce que ça changera un jour? Pour que ça change, il faudrait détruire les Is. Et c'est impossible? Je n'en sais rien. Avant moi, ma mère et ma grand-mère l'ignoraient aussi. Nous devons seulement espérer qu'un de nos enfants un jour débarrassera l'univers de ce fléau. Je ne peux pas attendre si longtemps, dit Nietzsche. D'autres devoirs m'appellent.
Cora continua à s'occuper de décorations intérieures. Frustré, Nietzsche retourna dans sa chambre, s'étendit et réfléchit aux moyens de quitter cette ville isolée sans compter sur la Slif. Si Ildakar se cachait de nouveau derrière le linceul de l'éternité, rien n'empêcherait Outros de partir à la conquête de l'ancien monde. Et pendant ce temps, la maîtresse de la mort était coincée dans un palais contrainte à sortir la nuit. Nietzsche s'avisa qu'elle s'était assoupie quand elle sentit de puissantes et sauvages pensées se mêler aux siennes. Dans son rêve, qui n'en était pas vraiment un, son corps changea de forme. S'allongeant, il devint plus trapu et... Le monde lui apparut à travers les sens aiguisés d'un prédateur, et les odeurs prirent une toute autre signification. Mara ! Ne faisant plus qu'une avec la panthère du désert, Nietzsche partagea sa course incessante. Mais Mara avait le souffle court et les coussinets de ses grosses pattes à vif la torturaient. Ces derniers temps, elle avait parcouru des lieux et des lieux avec en tête un objectif très simple, retrouver sa sœur humaine. Nietzsche était physiquement séparé de Mara depuis son départ pour Serimundi avec la Slif. Mais leur lien magique n'était pas brisé et elle restait en contact. En théorie du moins. Leur dernière union remontait à si longtemps que la magicienne avait redouté une rupture. Une lourde perte, car Mara avait toujours été une formidable espionne capable d'approcher du camp d'Outros et même d'y entrer. À travers ses yeux, Nietzsche avait glané une foule d'informations précieuses. Là, elle exprima sa joie de retrouver sa sœur Féline, et sa surprise de découvrir la distance qu'avait couverte la panthère pour la retrouver. Le lien n'était pas très puissant. Pourtant, Mara ne devait pas être très loin.
« Viens à moi, ma sœur, »
murmura Nietzsche dans son sommeil. La panthère grogna sans cesser de courir. Avec ses sens amplifiés de prédatrice, Nietzsche découvrit que d'autres félins l'accompagnaient. Des années plus tôt, quand elle était entre les mains des dresseurs d'Ildakar, Mara avait été entraînée pour se battre et tuer dans l'arène. Toute jeune, elle avait été liée à deux autres panthères pour former une troca. En d'autres termes, un trio qui luttait ensemble et partageait une seule et même âme. Lorsque ces sœurs panthères avaient été tuées par Nietzsche et ses compagnons, Mara aurait pu mourir de désespoir, mais la magicienne, en devenant sa sœur, l'avait arrachée au néant. Durant son long voyage, Mara avait rencontré d'autres félins qui étaient désormais sa garde rapprochée. Même si les chiffres n'avaient aucun sens pour une panthère, Nietzsche estima que sa sœur avait désormais 6 ou 7 compagnons.
« Viens me retrouver, »
murmura la magicienne dans son demi-sommeil. Mara rugit dans son esprit et les autres félins l'imitèrent. Rassurée puisque sa sœur venait à elle, Nietzsche s'endormit profondément. Quand elle se réveilla, des heures plus tard, la tête lourde et les membres gourds, Nietzsche alla étudier la carte dans le grand parlement afin de déterminer le meilleur chemin qui la conduirait à Ildakar. Puis elle fit de même pour Serimundi et Tanimura. Plusieurs fois, elle avait tenté d'amadouer la Slif en lui proposant des informations sur Sulakan. La créature l'avait-elle seulement entendue? En tout cas, elle n'avait jamais répondu. Alors que la magicienne laissait courir un index sur la carte en relief en quête d'un itinéraire, Cyrus entra dans la salle. Toujours aussi sombre, l'admirateur du général Outros parut à la fois furieux et ravi de rencontrer la magicienne.
« Même si tu dis du mal d'Outros, nous sommes rassurés de le savoir vivant. Il viendra nous retrouver, comme l'annonçaient les prophéties. »«
Tu es trop crédule, »
lâcha Nietzsche.
« Si tu avais vu ton général attaquer Ildakar, tu le vénérerais beaucoup moins. »« C'est l'empereur qui lui a ordonné de conquérir Ildakar. Comment pourrait-il lui désobéir ?»
Sous sa capuche grise, Cyrus se rembrunit encore.
« Même s'il a choisi un mauvais maître, Outros est un grand chef de guerre. Croc de fer mort, il sera le dirigeant dont nous avons besoin depuis toujours. Nous nous joindrons à son armée et il s'en réjouira. Ceux qui se cachent peuvent former une formidable force. Nous l'attendons depuis si longtemps. »
« Outros a plus de soldats que tu peux l'imaginer. En quoi l'aiderez-vous ? Bien des foules se prennent pour une armée jusqu'à ce qu'elles en aient une vraie en face. »«
Suis-moi, »
fit Cyrus.
« Je vais te montrer. »
Sortant du parlement, l'homme remonta plusieurs couloirs avant de s'arrêter devant une remise fermée. Inspirant à fond, il tourna la poignée et poussa la porte si vieille qu'on l'eût crue en pierre. Avec des grincements sinistres, les gonds consentirent à bouger. Quand Cyrus eut allumé une torche, Nietzsche découvrit une armurerie remplie d'épées étincelantes, assez pour équiper une énorme armée. Idem pour les lances rangées en faisceaux dans les coins, les casques empilés sur des étagères et les boucliers ornés de la flamme de Kourgan. Cyrus saisit une épée.
« On les aiguise et on les huile afin qu'elles soient prêtes à servir dès que le général Outros nous appellera. La nuit, nous nous entraînons à l'escrime autour de sa statue. La mobilisation générale, nous l'attendons depuis longtemps, mais elle approche. Connaissant l'histoire du général, nous n'avons pas le moindre doute.
« Pourtant, vous devriez, »
lâcha Nietzsche. Même si la foi aveugle de Cyrus lui déplaisait, elle admira les armes et les pièces d'équipement.
« Vous ignorez beaucoup de choses sur votre héros. »
Cyrus ne voulut rien entendre.
« Je sais tout ce qu'il y a à savoir, et tous nous l'attendons avec ferveur. »
Sur ces mots, Cyrus poussa Nietzsche dehors, puis referma la porte derrière eux. Dans les couloirs, le bourdonnement des conversations devint plus fort, signalant que le soleil venait de se coucher. De nouveau, Orogang allait appartenir à ses habitants.